santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours de ce 30 minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. La nutrition, on en entend de plus en plus parler, hein. C'est connu du grand public, mais un petit peu moins dans le milieu de la réadaptation. Et pourtant, ce que j'ai appris, c'est que son rôle est central pour la majorité des gens qui sont suivis en réadaptation. Et ce, peu importe leurs conditions, et ça s'explique du fait que l'alimentation, ça a vraiment un grand rôle, ça intervient sur la douleur qui est assez commune à tous les usagers en centre de réadaptation. Et je vais en parler avec la diététiste et nutritionniste Florence Sidney, qui, elle, travaille du côté du centre de réadaptation Lucie Bruno. Également, 40 000, c'est environ le nombre de Québécois, surtout des jeunes, malheureusement, qui recevront cette année un diagnostic d'ITSS, donc d'infection transmise sexuellement par le sang. Donc, le dépistage, ça fait partie de la prévention parce que la prévention, on le sait, on s'en doute du moins, c'est assez important, ne serait-ce que pour la santé globale, également pour la santé des partenaires qui peuvent être touchés par les ITSS. Et je vais en parler à l'instant avec le docteur Benjamin Dubois de la Clinique A et du CLSC de Saint-Henri. Bonjour, docteur Dubois.
Oui, bonjour, Mme Paquette.
Dépistage, ça semble un bien grand et gros mot qui peut intimider bien des gens. Et pourtant, ça fait plutôt partie d'une vie sexuelle active. Et on va tenter aujourd'hui d'un petit peu diminuer l'impact de ce mot-là, qui peut être, qui peut rendre mal à l'aise un petit peu. Qu'est-ce que c'est le dépistage des ITSS?
En fait, le dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang, c'est un moment où est-ce qu'on fait une intervention qui consiste à détecter l'infection chez une personne qui ne présente aucun symptôme. Pour la plupart des cas, il va s'agir de faire un questionnaire, soit par un médecin ou une infirmière, suivi d'un examen physique avec la prescription d'examens de laboratoire. Mais un dépistage, c'est aussi un moment où est-ce qu'on peut faire la détection de personnes qui peuvent bénéficier de vaccins pour en prévenir une infection. Mm-hmm. Et c'est aussi le moment qui est choisi pour faire de l'éducation sur les infections transmises sexuellement et par le sang.
Et j'imagine que ça peut servir aussi à des gens qui présentent des symptômes.
Oui, tout à fait. En fait, si vous présentez des symptômes ou vous avez une inquiétude par rapport au fait d'avoir contracté une infection transmise sexuellement, vous devriez consulter sans tarder parce qu'on pourrait vous offrir d'abord un traitement pour les symptômes, mais aussi un traitement pour diminuer votre risque personnel de contracter une ITSS ou même de la transmettre à quelqu'un d'autre.
Je disais tout à l'heure que le dépistage, ça fait partie d'une vie sexuelle active. Si notre vie sexuelle n'est pas vraiment active, est-ce qu'on y va quand même?
En fait, il n'y a pas vraiment de réponse claire là-dessus. Si vous avez bien sûr des relations sexuelles, vous avez un risque. Vous courez un risque de contracter une ITSS. Mais il n'y a pas seulement lors des relations sexuelles qu'on peut être à risque.
C'est vrai.
Tout le monde, à un moment de sa vie, devrait se poser cette question-là personnellement. Globalement, bien sûr, les personnes actives sexuellement ou qui l'ont été dans le passé devraient se soumettre à un test de dépistage. Les utilisateurs de drogues intraveineuses ou par inhalation devraient aussi y aller. Les travailleurs ou travailleuses du sexe, les gens exposés à des liquides biologiques dans le cadre de leur travail ou les gens qui viennent d'un pays où le VIH est endémique, toutes ces personnes-là peuvent bénéficier d'un dépistage d'ITSS. Enfin, les indications sont vraiment nombreuses.
Est-ce que si on est avec un partenaire depuis très longtemps, on continue à y aller quand même?
En fait, c'est une question qui va nécessiter que vous ayez, je pense, une discussion ouverte avec votre partenaire pour savoir un peu si vous, votre partenaire, vous prenez des risques en dehors de votre sexualité en couple.
Et le dépistage, il est effectué par un gynécologue ou pas nécessairement? Le médecin de famille peut le faire?
Au Québec, une infirmière ou un médecin de famille aussi, peuvent prescrire les analyses sanguines et les prélèvements génitaux pour détecter les ETSS. Le médecin pourra détecter là, une infection à chlamydia, une gonorrhée, une hépatite virale, une syphilis, le VIH, le virus de l'herpès ou celui du papillon humain.
Mm-hmm. Et d'après vous, et ça c'est une bonne question, Dr Dubois, pourquoi les gens sont intimidés ou hésitent à aller voir leur médecin pour un dépistage des ITSS? La peur du jugement, peut-être?
Bien, je comprends la gêne tout à fait parce qu'on travaille avec des êtres humains. Puis quand on doit aborder le sujet de la sexualité, c'est un contexte qui est très intime et on doit faire des confidences.
Ouais.
Chaque personne vit sexualité d'une façon qui est différente et unique. Et il faut d'abord poser des questions pour apprendre à connaître comment vit une autre personne. C'est devant tout que chaque personne qui est dans cette situation de dépistage, autant le médecin que le patient, il doit adopter une attitude d'ouverture, de respect envers ce qui est affirmé là, dans la consultation.
Et quel genre de questions vous allez poser aux gens qui viennent vous voir pour le dépistage?
C'est sûr qu'on parle de sexualité. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, on va poser des questions d'abord sur les antécédents médicaux pertinents à la consultation, mais aussi on peut poser des questions sur l'orientation sexuelle. On va présumer que tout le monde est hétérosexuel mm-hmm. non plus. Mm-hmm. On va aussi demander donc le nombre de partenaires, la fréquence des rapports sexuels, le type de rapport sexuel, s'il s'agit de relations orales ou de relations avec pénétration vaginale ou anale, et s'ils utilisent ou pas des moyens des moyens de protection comme le condom. On va aussi poser des questions sur le matériel d'injection chez les utilisateurs de drogue intraveineuse. Puis tout ça, on le fait pour préciser vos facteurs personnels pour mieux orienter le dépistage.
Oui, et pour cibler, j'imagine, les facteurs de risque. Donc, à quel moment vous déterminez qu'un individu est peut-être plus à risque?
Donc, à un moment qu'on va déterminer, bien, c'est en posant les questions mm-hmm. ou quand la personne va consulter pour une inquiétude.
Ouais, ouais. Mm-hmm.
Mais le moment entre où on doit venir consulter pour un dépistage et qu'on a eu un contact ou qu'on a une inquiétude, mais qu'on n'a pas de symptômes et qu'on ne croit pas avoir un moment où est-ce qu'on a contracté une ETSS, on peut se permettre d'attendre quelques semaines à quelques mois. On nous parle d'une période fenêtre, aussi appelée une période aveugle, entre le moment d'un contact infectieux et le moment où est-ce qu'on peut détecter par des tests une ETSS. La période mm-hmm. va varier dépendamment du type d'infection. Par exemple, pour une chlamydia ou une gonorrhée, le délai est de 1 à 2 semaines avant qu'on ait un test qui soit fiable pour détecter une infection. Ce délai-là va être un peu plus si on parle, on se questionne pour une syphilis, les hépatites virales, le VIH ou l'herpès, on parle plus de 8 à 12 semaines de période fenêtre à ce moment-là.
Donc, si je comprends bien, si on a eu un contact sexuel à risque, on doit quand même attendre pour que ça vaille quelque chose lors des tests, lors du dépistage.
Dans certains cas, oui, il y a cette période fenêtre. Dans d'autres cas, si on pense, par exemple, pour le cas précis du VIH, mm-hmm. si on a une inquiétude pour d'avoir contracté le VIH, c'est préférable à ce moment-là d'aller consulter dès qu'on a de l'inquiétude parce que à ce moment-là, on pourra offrir, si les facteurs de risque sont suffisants pour une transmission virale, une thérapie qu'on appelle de post-exposition pour diminuer le risque de la personne de contracter le VIH.
Mm-hmm. Et ça existe simplement pour le VIH ou d'autres ITS peuvent bénéficier de ce traitement-là?
Pour spécifiquement réduire le risque de contracter l'infection, c'est uniquement pour le VIH.
Okay.
Mais si vous présentez des symptômes, là, c'est du cas par cas.
Quand on parle, j'y reviens justement au VIH, on doit avoir, pour le détecter ou pas, un prélèvement sanguin.
Mm-hmm.
J'imagine qu'il y a des gens aussi qui ont peur des aiguilles, mais c'est le seul moyen de faire le test du VIH.
En fait, actuellement, au Québec, il existe la méthode via les prélèvements sanguins, où est-ce qu'on fait la recherche de plusieurs anticorps contre le VIH, mais aussi d'un antigène contre une protéine. On peut également faire au bout d'un doigt, comme on fait simplement une glycémie capillaire chez les diabétiques, okay. un test qu'on dit test rapide pour le VIH, et en l'extérieur de quelques minutes, on peut avoir une idée, un bon aperçu à savoir si la personne qu'on a devant nous est infectée ou pas de façon chronique par le VIH. Mais la façon standard actuellement de faire le test, c'est encore avec la prise de sang.
Est-ce qu'il y a d'autres prélèvements lors des dépistages?
Oui, lors de l'examen physique, soit l'infirmière ou le médecin pourrait faire un prélèvement au niveau des organes génitaux, notamment chez les femmes. Mais ceci dit, il existe actuellement des méthodes valides d'auto-prélèvement génitaux pour les hommes et les femmes qui sont faits en cabinet.
D'auto-prélèvement, qu'est-ce que c'est ça?
C'est-à-dire que chez l'homme, par exemple, on n'introduit plus dans l'urètre le Q-tip, finalement, pour aller rechercher des sécrétions.
Okay.
On peut très bien faire le test dans l'urine. Fait que le patient va sortir du bureau quelques minutes et aller aux toilettes faire l'urine qu'on lui demande. Chez la femme, avec supervision, on peut enseigner à la femme comment se faire elle-même un auto-prélèvement au niveau vaginal pour la détection de la chlamydia ou de la gonorrhée.
Est-ce que ça fait mal?
Absolument pas. Ça devrait pas du tout faire mal de faire un dépistage. En dehors des prises de sang qui peuvent être craintes par certaines personnes ou des vaccins qu'on va offrir pour justement prévenir une infection.
Et à partir de quel âge? Bon, j'imagine que ça dépend. Ça dépend à quel âge on a commencé à avoir une vie sexuelle active, mais vous conseillez à partir de quel âge de commencer à avoir des tests de dépistage?
Bien, comme vous le dites, à partir du moment qu'on commence à avoir des relations sexuelles, on court un risque de contracter une ITSS. Mais il n'y a pas d'âge pour ça.
Mm-hmm.
Hein, on voit beaucoup de jeunes, malheureusement, vous l'avez dit en introduction, les 15 à 30 ans sont vraiment la tranche de la population qui est le plus à risque de contracter une ITSS au cours de la prochaine année. Mais les gens aussi vieillissent, se marient et plus tard parfois divorcent. Puis autour des divorces, les gens retrouvent une certaine activité sexuelle. Donc, il y a un autre pic à ce moment-là d'infection. Donc, ça touche tous les âges et ça dépend beaucoup de ses facteurs de risque personnel. Puis je pense que c'est une discussion qu'il doit avoir à ce moment-là avec son professionnel de la santé.
Oui, c'est assez effarant, 40 000, docteur Dubois. Pourquoi les jeunes sont représentés, bien sûr, de façon malheureuse en ce qui a trait au ITSS? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plusieurs partenaires ou ça se passe ailleurs dans la prévention, dans le fait d'être à l'aise, de parler de sexualité et de prévention?
C'est probablement multifactoriel. Il y a probablement une composante d'éducation qui a peut-être été laissée un peu de côté dans les dernières années. Est-ce qu'il y a aussi un contexte où est-ce qu'on a des bactéries qui sont plus résistantes ou des bactéries qui ont plus de virulence? Ça aussi, ça pourrait expliquer pourquoi on a toujours à chaque année une augmentation du nombre de déclarations. Mais il faut aussi penser que est-ce qu'on a déclare non seulement pas plus de cas parce que les médecins qui doivent déclarer les cas à la santé publique font mieux leur travail.
Ah oui, c'est une bonne question. Augmentation des cas, en même temps aussi, l'apparition de maladies, on pense bien sûr à la syphilis, là on en a entendu parler dans les derniers temps, qui renaît finalement.
Oui, tout à fait. La syphilis qui était pratiquement disparue il y a un peu plus, environ une vingtaine d'années, qui fait un retour épidémique, si on peut dire, dans la grande région de Montréal. On a de l'augmentation là, de plus de 1000% des cas de syphilis à chaque année. Moi, dans ma pratique, à chaque semaine, je vois des gens qui consultent, soit pour des syphilis primaires ou des syphilis secondaires. Donc, c'est fréquent maintenant.
Et une fois qu'une ITSS est détectée, quel est l'accompagnement de l'équipe médicale, que ce soit l'infirmière ou le médecin, suite à ce diagnostic-là?
Enfin, on va recontacter donc la personne pour lui offrir un traitement, bien sûr, mais aussi dans certains cas, un suivi, puisque certaines infections qui vont nécessiter d'autres prélèvement ou un suivi plus rapproché. Et sinon, l'infirmière ou le médecin peut donner une référence au patient pour aller voir un autre professionnel de la santé.
Est-ce qu'il y a de l'accompagnement psychologique dans certains cas qui est proposé?
Oui, ça se fait naturellement, habituellement, par le médecin ou l'infirmière là, qui a fait le dépistage.
Maintenant, en terminant, et peut-être aussi dans cette veine-là pour rassurer les gens qui nous écoutent, je reviens un peu à cette introduction où l'on mentionnait que ça peut être parfois gênant d'aller voir un médecin pour le dépistage des TSS. Bien sûr, tout ça est confidentiel. Je pense notamment, Dr Dubois, en fait, je précise ma question, à ces jeunes-là qui ont 18 ans et moins, parfois même plus jeunes, 13, 14 ans, et qui peuvent arriver dans votre bureau avec différentes interpellations.
Oui. En fait, il faut d'abord savoir que se faire dépister au Québec, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de frais monétaires pour les jeunes. L'information qui est collectée dans le dossier médical est complètement confidentielle, sauf pour des exceptions qui sont prévues par la loi. Donc, on ne va pas aller parler des problèmes de santé avec les gens, les proches ou la famille.
Oui. Ben, Benjamin Dubois, docteur Dubois de la Clinique A, également du CLSC de Saint-Henri, merci beaucoup. On glissera sur notre site les adresses de la Clinique A, qui est toujours une très, très bonne ressource.
Je vous remercie beaucoup, Mme Paquette.
Merci, au plaisir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Triade de la douleur et nutrition indissociable, c'était le nom de votre conférence donnée ce midi. Florence Inné, ça s'est bien passé?
Oui, ça a très bien été.
Il y avait beaucoup de monde?
Oui, quand même en salle, on avait 70, puis je pense le même nombre en web diffusion.
Ah oui, quand même. Et des gens qui consultent en réadaptation, des professionnels de la santé, à quoi ressemblait la foule?
C'était plus les gens... dans le réseau de la santé, parce que c'est vraiment une présentation, une conférence faite par le professionnel, donc moi, pour les professionnels.
Donc, une conférence qui abordait l'interrelation entre la douleur, la nutrition également, le sommeil. On va en parler un petit peu ensemble, Florence. Mais d'abord, vous êtes diététiste nutritionniste au Centre de réadaptation Lucie Bruneau. C'est quoi le rôle d'une nutritionniste dans un centre de réadaptation?
En réadaptation, c'est complètement différent comparé aux soins aigus. Donc, en réadaptation, on veut outiller la personne pour bien vivre avec leur condition à long terme, que ce soit post-AVC ou post-traumatisme crânien ou post-blessure médulaire. Donc, en nutrition, par exemple, pour les cas de post-AVC, je donne les recommandations nutritionnelles pour diminuer les facteurs de risque et pour diminuer les récidives d'AVC.
Mm-hmm. Je le disais tout à l'heure, l'alimentation, c'est important pour ces gens-là parce que ça a un effet direct sur la douleur.
Oui.
Mais pour les gens qui nous écoutent à la maison, et même moi, c'est un petit peu difficile à comprendre de quelle façon l'alimentation peut avoir un effet pour atténuer, par exemple, ou mieux gérer la douleur. Et en effet, peut-être que vous pouvez nous l'expliquer, quelle est la relation entre la douleur et l'alimentation?
Mais en fait, il y a des aliments qui sont pro-inflammatoires, puis l'inflammation, ça augmente la douleur, ça augmente l'intensité de la douleur, et il y a des aliments qui sont anti-inflammatoires. Donc ça va atténuer ou réduire la douleur. Donc les aliments qui sont pro-inflammatoires, c'est tout ce qui est gras saturé, donc le gras animal, la peau du poulet, les charcuteries, le gras autour d'un steak, les gras trans, donc ça c'est les gras chaleur qu'on appelle hydrogénée. On trouve ça plus en industrie comme la friture ou les pâtisseries industrielles. Puis aussi les sucres concentrés, donc tout ce qui est bonbons, sirop, crème glacée, des aliments très sucrés, ça peut augmenter la douleur.
Parce que ce sont des aliments inflammatoires.
C'est ça.
OK. D'autres aliments qui pourraient créer de la douleur ou l'accentuer?
Bien, c'est sûr que si quelqu'un a déjà une intolérance, mettons, au lactose ou gluten, ça aussi, ça peut augmenter la douleur.
Le nombre en fait, je dois dire que cette conférence que vous accordiez tout à l'heure, triade de la douleur et nutrition indissociable, c'était présenté dans le cadre des rendez-vous de la réadaptation du Centre de réadaptation Lucie Bruneau.
Oui.
Qu'est-ce qu'on entend par triade de la douleur? Parce que triade, même, c'est un mot qu'on n'entend pas très, très souvent.
Oui, oui. Mais en fait, il y a un lien entre le sommeil, l'alimentation et la douleur. Donc, mettons, quand on dort mal, il y a un déséquilibre hormonal qui se crée, puis nos signaux de satiété sont diminués. Donc, on a tendance à manger plus. Puis, en plus de ça, on veut chercher des aliments qui sont plus réconfortants, juste avec le fait de moins dormir. Donc, on veut chercher des aliments qui sont riches en gras, riches en sucre, du chocolat, des bonbons, des pâtisseries. Et ces aliments-là, comme j'ai dit, ça va influencer de façon négative la douleur. Donc, ça va augmenter la douleur. Donc, c'est ça, ce triade-là. Quand on ne dort pas bien, on ne mange pas bien, puis on choisit des aliments qui sont pro-inflammatoires, et c'est ça qui augmente la douleur.
Est-ce qu'il y a des recommandations alimentaires pour faciliter le sommeil?
Mais pour le sommeil, je recommande toujours d'avoir nos 3 repas équilibrés par jour. Donc, ça veut dire une bonne source de protéines, une bonne source de bons gras, des légumes et des fruits. Et ça, c'est justement pour éviter des pics et des baisses de sucre, parce que ça aussi, ça peut perturber notre sommeil. Évidemment, éviter des gros repas avant de se coucher, donc ce qui est très gras, la friture ou un repas avec beaucoup de protéines. Éviter la caféine, l'alcool, parce que ça peut stimuler. Et une bonne hydratation aussi, ça aide au sommeil.
Est-ce qu'il y a des heures qui seraient préférables? Est-ce qu'il faut suivre un horaire bien strict pour les repas?
Je dirais pas bien strict, mais c'est important de toujours avoir nos 3 repas. Faut jamais sauter de repas parce que justement ça crée des hausses puis des baisses de sucre. C'est ça qu'on veut éviter. Et aussi, mettons, si on saute un repas, au prochain repas, on va surcompenser. Puis surtout, c'est le soir qu'on va surcompenser. Là, on va moins dormir parce qu'on a un gros repas à digérer.
Est-ce qu'on favorise la prise de collation?
Oui, oui. La prise de collation, c'est important pour nous soutenir jusqu'au prochain repas. Mais il faut faire attention au choix qu'on fait aussi. Donc, c'est toujours préférable de combiner une bonne source de protéines avec un petit sucre. Donc, ça veut dire des noix avec un morceau de fruit ou bien un yogourt ou bien des craquelins avec un peu de beurre d'amande, mettons.
Maintenant, Florence, je reviens un petit peu à votre rôle de nutritionniste au cœur même du Centre de réadaptation, Lucie Bruneau. Ça se passe comment? Est-ce que vos interventions sont différentes selon que la personne devant vous ait eu un accident ou une paralysie ou autre chose? Est-ce que votre approche se modifie?
Oui, parce que en fait... Moi, à Lucie Bruneau, j'ai 2 programmes. Donc, moi, j'ai un programme, ça s'appelle encéphalopathie. Donc, c'est tout ce qui est post-AVC. Puis, l'autre clientèle que j'ai, c'est les blessés médulaires. Donc, tout ce qui touche la moelle épinière. Puis, mettons, pour mes clients post-AVC, comme je dis, ça va être plus... les recommandations, ça va être plus axé sur diminuer les facteurs de risque. Donc, améliorer l'alimentation pour bien contrôler le diabète, le cholestérol, les triglycérides, le poids. Tandis que avec les gens qui ont fait, une blessure médulaire, eux, ils ont plus des problèmes d'incontinence fécale, incontinence urinaire, des fois des plaies de pression parce qu'ils sont souvent assis en fauteuil. Donc, il y a des recommandations à donner pour les incontinences fécales et urinaires au niveau de l'alimentation. Et quand peuvent améliorer ces conditions par l'alimentation. Ils ont une meilleure qualité de vie puis une meilleure participation sociale aussi.
Ouais. Est-ce que les bienfaits d'un changement du point de vue alimentaire se fait rapidement auprès des usagers?
Oui, c'est sûr que ça dépend de la motivation de la personne. Je peux juste outiller la personne, mais c'est à elle de faire les changements. Mais oui, une fois que quelqu'un embarque ou vraiment suit les recommandations, oui, les bienfaits sont rapidement vus.
Et bon, j'imagine que des fois, vous confrontez à des résistances. Par exemple, des gens qui n'ont jamais nécessairement pris soin de leur alimentation, peut-être n'ont jamais eu d'intérêt pour ça. Et là, suite à un nouveau défi de vie, c'est-à-dire un défi de réadaptation, ils doivent y voir d'un peu plus près.
Oui, oui. C'est sûr qu'il faut toujours travailler avec la personne, puis personnaliser un petit peu les recommandations. Et aussi, faire des petits pas. Si ouais. quelqu'un, avant, mettons, l'AVC, mangeait toujours la bouffe rapide, puis mangeait toujours la friture, puis grignotait des bonbons tout le temps, on va pas faire... je veux pas de donner des recommandations extrêmes de manger une salade le midi. Donc, faut juste prendre des petits pas, mettons un cas extrême comme ça, je dirais, OK, bon, on va juste incorporer des légumes le midi puis le soir, puis incorporer ouais. un fruit par jour.
Vous prenez vraiment les gens où ils sont rendus?
Oui, oui, il faut.
Ouais. Et ces gens-là, parfois, ils repartent, j'imagine, avec ces nouvelles notions-là à la maison et toute la famille peut en bénéficier.
Oui, oui. Puis c'est encore meilleur quand la famille s'implique, parce que c'est plus facile pour la personne d'intégrer les recommandations.
Mm-hmm. En terminant, Florence, un petit mot sur les rendez-vous de la réadaptation. En quoi ça consiste?
Mais en fait, c'est on a trois conférences qu'on donne par année à l'Institut Bruno. Puis en fait, c'est comme je disais, c'est donné par un professionnel, c'est pour des professionnels et aussi les maisons d'enseignement, donc les stagiaires puis les étudiants sont invités. Puis c'est juste pour faciliter le transfert de connaissances puis améliorer le travail en complémentarité dans le réseau de la santé.
Et c'est possible d'y assister sur place et également en web diffusion.
Oui.
Pour plus de renseignements, www.luciebruno.qc.ca. Vous allez dans l'onglet calendrier. Et nous, un petit peu avant le 9 décembre, parce que la prochaine conférence est le 9 décembre, on va s'entretenir avec M. Eduardo Cisneros. J'espère que je prononce bien son nom.
Oui.
Et puis, on parlera de son sujet « Nouvelle perspective pour la personne âgée qui a subi un traumatisme crânio-cérébral ». Eh bien, Florence Inné, merci beaucoup de cette participation. On en a appris davantage sur la nutrition en milieu de réadaptation.
Je vous en prie.
Au revoir. Eh bien, merci Kamal Salifou de m'accompagner au cours de ce 30 minutes de C'est bon pour la santé. C'est Marianne Paquette au micro. Demain, je m'entretiens avec Olivier Bernard, pharmacien, également le pharmacien. Il vient de sortir son nouveau livre et il nous en parlera un petit peu plus en détail. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h. Vous pouvez nous suivre au canalm.org et nous joindre à mpaquette@vuesetvoix.com. 1-800-361-0635, poste 220 par téléphone. On se retrouve demain. Je vous embrasse. Bye-bye.